2022. Michel Bonnet, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, le studio est rempli parce que nous avons des invités. On sait pas si c'est des invités. En fait, c'est des gens de corde qui sont bien enfoncés dans la vie cordaise. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de cette exceptionnelle conférence qui va y avoir lieu samedi prochain. Et pour ça, eh bien, nous avons évidemment au micro de CFM, comme il se doit, d'une part Paul Sanda. Je ferai pas l'injure de dire qui il est parce que lui, il est plus connu encore que CFM, alors c'est pas peu dire. Et puis Bruno Geneste qui vient également samedi. Donc, ils vont nous présenter à la médiathèque du Pays Cordé, samedi à 5h15, 17h15, un siècle d'écrivains à Cordes, à Cordes et les environs, quoi, c'est, voilà. Alors là, moi, j'ai rien à dire, je suis pas écrivain du tout, Paul Sanda et Bruno Geneste vont prendre le micro et en avant. Alors, Paul, la parole est à toi.
Eh ben merci Michel. Alors on est très heureux d'être une fois de plus sur CFM. Enfin pour Bruno, je crois que c'est la première fois. Alors que tu viens sur CFM.
Oui, c'est la première fois.
Ouais. Alors en fait il faut vous expliquer déjà en quelques secondes pourquoi notre duo. En fait, ça fait déjà, on se connaît depuis plus d'une décennie largement, presque bientôt deux parce qu'on vieillit quand même à une grande vitesse comme beaucoup. Et on a commis ensemble déjà beaucoup d'ouvrages, c'est-à-dire que c'est pas si courant que ça d'écrire des livres à deux, enfin du à quatre mains, on peut dire ça comme ça. Et donc on a écrit pas mal d'ouvrages, et en particulier des essais sur plusieurs auteurs. On a écrit des ensemble, on a écrit un essai sur André Suarez, un autre sur Saint-Paul Roux, etc., enfin sur des écrivains. Et puis, il y a pas très longtemps, il y a deux ans, on a écrit un livre qui s'appelle « Un siècle d'écrivains à Pont-Aven », parce que Bruno, il est breton. Et ça fait depuis 2009 à peu près qu'on a créé un espèce d'axe entre la Bretagne et Cordes, enfin entre le Finistère, on va dire, et plus précisément le pays de Quimperlé et le pays cordais, une espèce d'affinité littéraire qui a permis de faire circuler des poètes et des écrivains, qu'on va d'ailleurs retrouver en partie dans le livre dont on va parler, entre Cordes et Moëlan-sur-Mer et le pays de Quimperlé. Et ils m'ont fait l'honneur de m'élire donc président de la Maison de la Poésie du pays de Quimperlé. Et ça a plusieurs fois, je suis allé en Bretagne, et même de nombreuses fois, mais surtout séjourné sur des phares, avec Bruno d'ailleurs, et à cette occasion écrire des livres. Donc on avait écrit un livre qui s'appelle « Un siècle d'écrivains à Pont-Aven et ses environs ». Donc Pont-Aven, c'est un peu le pendant de Cordes en Finistère.
C'est quand même connu. Quoi.
Voilà, une cité extrêmement habitée par les artistes, en particulier les peintres, puisqu'à Pont-Aven, il y a l'école de Pont-Aven, il y a eu Gauguin, etc., Serruzier, ouais. Bon, voilà. Et puis, beaucoup d'écrivains, comme on l'a découvert ensemble, et donc on avait écrit ce livre. Et puis, comme c'est profilé le 8e centenaire de la fondation de Cordes, eh ben j'ai dit, puisque moi j'ai été écrire un livre sur Pont-Aven et sur la Bretagne avec toi Bruno, ben toi tu vas venir écrire un livre avec moi sur un siècle d'écrivains à Cordes-sur-Ciel et environ. Donc on a fait la même chose en fait, ça. Et c'est très intéressant de voir que c'est un axe que même certains des écrivains du livre ont fréquenté, les deux, puisque on s'est retrouvé par exemple avec André Breton qui venait à Cordes, mais qui venait aussi à Pont-Aven.
Mais il doit y avoir comme ça des infrastructures, dans le monde, dans l'humanité, souterraines, et on les voit apparaître.
Et Francis Carco, qui était à Villefranche de Rouergue, et puis qui allait aussi dans le pays de Pont-Aven, et d'autres, voilà. Donc, simplement dire aussi, par contre, ça nous a permis de découvrir d'autres écrivains, parce que ceux qu'on avait vus en Bretagne, même les plus célèbres, comme Cocteau, etc., Macquarlan, enfin mmh. voilà. On les a pas retrouvés ici, mais ici on en a trouvé d'autres comme Jean Giono, voilà. Albert Camus, et puis Hector Malot, donc des auteurs du Sud. Et c'était très intéressant d'ailleurs, parce que Bruno va en parler peut-être tout à l'heure, par exemple de Charles Géniaud, qui est un écrivain qui était breton, du côté de Rennes, et qui venait tout le temps à Millars ici. Ah bon? Et donc oui, il a même investi carrément le château de Millars, l'a acheté pendant une époque, etc. Donc un romancier breton. Ah. Donc voilà, donc c'est Bruno qui s'est chargé de ce chapitre. Alors comme on écrit à quatre mains, c'est vrai que souvent on se partage un peu les tâches en fonction d'affinité ou de travail qu'on a envie de faire. Je dois dire quand même en premier et avant qu'on aille plus loin que cet ouvrage fait suite à un premier ouvrage qui avait été fait par Jean-Gabriel Jonin il y a longtemps déjà, oui. Vers 2005, je l'ai cité, mais je ne sais plus la date exacte en tête, là, mais dans ces environs-là, un ouvrage qu'il avait fait qui s'appelait « Ils ont écrit corde ».
Oui.
Donc, il avait défriché un peu déjà le terrain qu'on va emprunter là. Alors, dans son livre, c'était une première approche. Il avait mis un peu pêle-mêle tous les gens qui avaient écrit quelque chose sur corde. Donc, il y avait des architectes, des oui. photographes, des auteurs de bandes dessinées, etc. Alors, nous... puis, c'était des très petits articles quand même. Hein. Oui. Donc, nous, l'idée a été, comme on l'avait fait à Pont-Aven, c'est de prendre essentiellement les écrivains de littérature et, par contre, d'approfondir totalement leur...
C'est ça, le rapport, quoi.
Le rapport qu'ils avaient oui. avec corde. Et, autant que possible, citer intégralement le travail qu'ils ont fait autour de la cité. Alors, on a bien fait de dire corde et environ, parce qu'on s'est aussi intéressé à toute une école littéraire, je devrais dire, qui s'était installée à Peine-du-Tarn. Et sans oublier Maurice de Guérin à Andillac, oui, en fait, aux environs, tous les grands écrivains. Alors, je dis bien des grands écrivains, c'est-à-dire que on a enlevé quand même les architectes, les ésotéristes, tout un tas d'autres gens, pour vraiment se concentrer sur les romanciers et les poètes. C'est-à-dire vraiment sur de la littérature.
Bien. Voilà. On prend une seconde d'arrêt pour aller dans la musique.
CFM Cordes, CFM, l'esprit rock.
Je me souviens du jour où il m'a dit... Je le regardais comme une apprentie. Il m'a dit c'est simple, si t'as envie, suffit de trouver les bons outils. C'est con mais j'ai chialé, je savais pas moi que je pouvais avoir une autre façon de penser, une façon plus à moi d'aimer. Je savais pas que j'avais le droit d'avoir des rêves plus grands que moi. Moi je savais pas que c'était comme ça, juste en claquant des doigts. Et puis regarde où j'en suis, regarde à nos espérances criardes, à ces années fêtardes. Et puis, regarde. Alors j'ai pris mes clics et mes claques, et j'ai pas pleuré en faisant mon sac, mais j'en ai versé des larmes de joie quand j'ai vu ma vie en face de moi. Ça a été long, ça a été dur. J'ai essuyé des reproches et des injures, là où j'en attendais le moins, là où je croyais que c'était solide. En fait, ça ne tenait plus à rien. J'en ai versé des larmes de joie. J'en ai versé des larmes de toi. Et puis, regarde où j'en suis, regarde à nos espèces. J'aurais voulu qu'on me dise quand je me noyais dans une baignoire de méprise, quand ma vie ressemblait à un tas de regards inertes. Je me sentais libre, ivre que dans la fête. On m'attachait invisible et tranchant. Puis j'ai compris que c'était moi qui les tissais depuis longtemps. Alors à grands coups, de grands gestes et de grandes gueules, j'ai retourné ma veste. Je me suis retrouvée toute seule. Y'avait personne. Y'avait personne. Y'avait personne. Personne. Et puis regarde où j'en suis, regarde à nos espérances criardes, à ces années fêtardes. Et puis regarde où j'en suis, regarde à nos espérances criardes, à ces années fêtardes. Et puis tu vois, les années passent et te voilà bien en face. J'ai pas oublié tes petits regards. Et puis des airs d'un soir, nos virées interdites, l'hilarité de nos réveils insolites. Et quand tu me prenais la main, tu me disais: faut que je te présente, viens. On en a fait des kilomètres, des dénouements dans ma tête. J'en ai déversé des regards sans promesse. Et puis à chialer toute seule dans ma caisse. Et puis regarde où j'en suis, regarde à nos espérances criardes, à ces années fêtardes. Et puis regarde avec ta gueule là, avec ton air là, à faire comme si tu tremblais pas. Et puis regarde avec ta gueule là, avec ton air là, à faire comme si tu tremblais pas. Et puis regarde avec ta gueule là, avec ton air là, tu me la fais pas à moi, tu me la fais pas à moi, avec ta gueule là.
Corde 2022, Michel Bonnet avec Paul Sanda et Bruno Geneste. Et donc nous nous préparons ensemble à cette soirée littéraire exceptionnelle de samedi prochain, le 28, je vous rappelle, à 17h15 à la médiathèque du Pays Cordé. Nous continuons à faire connaissance avec Paul, on le connaît bien, mais peut-être un peu moins Bruno Geneste. Alors à vous la parole.
Oui, alors on va pas déflorer évidemment cette conférence et bon parce
qu'il faut que les gens viennent.
Voilà, mais c'est quand on voit tous ces auteurs, c'est absolument impressionnant, tous ces auteurs qui sont passés à Cordes. Et effectivement, je vais donner la parole à Bruno pour qu'il parle un peu de son expérience avec l'écriture de ces auteurs-là et ceux qu'il a particulièrement travaillé ou aimé. Je vais quand même avant remercier aussi donc notre préfacier qui s'appelle Éric Le Bédel, qui est ancien ambassadeur, qui aujourd'hui réside dans le Grand Écuyer et qui nous a fait une très belle préface pour cet ouvrage. Et puis je veux aussi citer ceux qui ont participé en plus d'Éric à nous donner des très belles photos, puisqu'il y a je précise à tout le monde qu'il y a un cahier central couleur assez conséquent dans cet ouvrage pour souligner tous les auteurs dont on parle. Et donc Éric qui nous a donné en particulier la photo de la chambre d'Albert Camus au Grand Écuyer, voilà. Mais on a des choses comme ça. Et donc Maryse Larocque qui a aussi participé à nous trouver des photos, et puis qui d'ailleurs va héberger Bruno. Et puis Elodie Cortès à la mairie, qui nous a aussi permis d'accéder à des photos originales, le musée d'art moderne de Cordes, et Corinne Moine qui a fait la maquette. Voilà. Et maintenant, je passe la parole à Bruno pour qu'il parle un peu de son expérience littéraire et cordaise.
Bah, tout d'abord, merci de m'accueillir sur SFM Radio. Merci à Michel, merci à Paul pour cet accueil. Donc, je viens juste d'arriver. Hein, j'ai fait ce trajet là en deux temps, et donc je suis arrivé. Ça fait une heure. Donc, c'est vrai que cette expérience des écrivains et cordes. Et une belle expérience, puisque c'est vrai qu'on a été tout d'un coup confronté à toute cette constellation d'univers, vraiment très intéressant. Voilà, l'univers qui m'a vraiment le plus marqué, c'est peut-être celui de Georges Armand, un poète remarquable, fabuleux, sur lequel j'ai écrit. Et c'est vrai que quand j'ai appris qu'il était venu du côté de Peine et qu'il avait découvert ce paysage très particulier avec une géologie particulière, avec une géographie une topographie particulière. Et c'est vrai que là, c'est vrai que je me suis dit, voilà, il y a quelque chose dans cette poésie, puisque je connaissais pas très très bien la poésie de d'Hermand. Donc et c'est là vraiment, ça a été le début de la clé, c'est-à-dire que le paysage, le lieu, comment il a rencontré ce lieu, c'est vrai que ça a été pour moi une sorte de comment dire, oui, d'entrée en matière, peut-être une porte qui m'a ouvert à son univers. Voilà. Et il y a eu aussi, alors je veux pas tout dévoiler parce que c'est vrai que Paul il a raison, hein. Il y a la conférence donc à 17h15 samedi prochain, donc on va pas tout dévoiler, donc c'est vrai que, mais bon, c'est vrai que le lieu pour moi est assez fondamental, c'est pour ça que c'est peut-être par là que j'ai commencé l'écriture, c'est-à-dire que je connais pas forcément très bien les lieux, pas comme Paul et comme Michel en tout cas, donc, mais je suis venu à plusieurs reprises ici dans ce magnifique pays, donc j'ai pu quand même un tout petit peu hein, me souvenir en fait de certains lieux que j'avais explorés à l'époque du festival de Cordes d'ailleurs. Et là, oui, effectivement. Alors là, il y a eu aussi Malurieux sur lequel j'ai écrit, hein, que je connaissais un tout petit peu, puisque je sais qu'il a été très ami avec un poète breton qui s'appelle Yvon Lemaine. Je crois qu'il est venu ici à plusieurs reprises dans ce pays, rencontrer Malurieux en particulier. Oui. Et donc, c'est vrai. Il y a eu aussi Noël Arnaud, fabuleux Noël Arnaud, grande figure du surréalisme. Et puis il y a eu Bonnefoy aussi avec l'histoire des Chapes Rouges. Un livre qui raconte un peu d'une manière sibylline en fait son enfance du côté de Toulouse avec aussi sa rencontre avec un peintre dont je me souviens plus le nom d'ailleurs, mais en fait on n'a pas de certitude, mais Paul lui il pense que c'est
Francis Meunier,
voilà, c'est ça. Donc voilà, donc tout ce livre ça a été aussi pour moi une exploration à la fois de l'histoire de Cordes, de tout ce qui constitue le paysage, c'est-à-dire toutes les sensations qui émanent de ce paysage. Et c'est vrai que ça a été pour moi, comme pour d'ailleurs Pont-Aven, mais que je connaissais déjà un peu mieux. Paul, lui, il avait aussi beaucoup exploré Pont-Aven et ses environs. Moi, c'était un peu moins, mais c'était une expérience fabuleuse. Voilà, une véritable exploration. Et je garde encore quelques réminiscences en fait de cette expérience magnifique de l'écriture de ce livre qui n'a pas été d'ailleurs qui était assez fulgurante. Je crois qu'en deux mois on avait bouclé ce livre, donc c'était quand même assez remarquable.
Ouais, parce qu'on a lu quand même à nous deux peut-être une centaine de livres pour le faire.
Non mais oui,
donc en deux mois c'était
oui, deux mois, hein, assez, deux mois, parce que
puissant.
Il y a certains chapitres que j'ai traités, je me souviens, sur l'île de Groix, hein, oui. Donc qui est une île magnifique, hein, qui est une île très connue en Bretagne, une île du Sud, hein, mais qui n'a rien à voir avec les îles de l'Ouest de la Bretagne, qui sont bien plus rudes, bien plus, disons...
Oui, voilà, c'est déjà le Sud.
C'est déjà le Sud, oui. On est, voilà, moi je suis un armoricain du Sud, oui. C'est ce que je dis souvent, un armoricain du Sud. Et donc j'ai écrit certains chapitres là sur cette île, l'île de Groix, hein, qui est une île, alors on les appelait les Grecs, hein, pas tout simplement les Grecs, parce que, en fait, ils avaient une façon de faire le café.
Ah bon ?
Ah oui, c'est très particulier. Ils utilisaient des cafetières, donc qu'on ne trouvait que là-bas. Et ils avaient une façon de moudre leur café et de faire leur café. Et c'est pour ça qu'on les appelait les Grecs. Alors, certains disaient, mais pourquoi on les appelle les Grecs? C'est pas, c'est, ils sont pauvres, ils ont rien. Ils ont des origines grecques? Non, non, pas du tout, non. C'est pas possible. Donc, non, simplement parce que, alors, bon, c'est vrai que c'est une île aussi qui est, voilà. Moi, j'aime bien écrire dans les endroits qui sont très, très forts comme ça.
T'en as souvent écrit dans les îles, tous les deux.
Oui, hein. Avec Paul, par exemple, j'allais justement y venir. Ouais. On a écrit un livre, on en a écrit plusieurs d'ailleurs, parce qu'on a travaillé sur plusieurs travaux. Ouais. Mais en l'occurrence, on a écrit un livre qui s'appelle Les surréalistes et la Bretagne. Le domaine des enchanteurs, avec lequel on a eu la bourse Sarah Alexandrian en 2014, je me trompe peut-être sur la date. Et c'est vrai que ça a été aussi une formidable expérience, une véritable expérience insulaire, une expérience des limites aussi, puisqu'on était vraiment à l'extrême ouest du sémaphore de Ouessant, sur cette île battue par les vents d'ouest. Ouais. Hein, et puis, en face, on avait en face de notre atelier... disons Atlantique, oui. On avait le rail de Ouessant, ce qui est quand même...
voilà, après on a écrit ensemble aussi sur l'île Molène.
On a écrit sur l'île Molène aussi, oui.
On a écrit ensemble sur l'île Vrac.
Oui, sur l'île Vrac. On a terminé un livre sur Molène justement qui s'appelle La sagesse des druides, le titre... Sagesse des druides. Révélation, oui, la sagesse des druides. Et
puis
on
là,
a
on
écrit...
est sur une île de terre.
Et là, on est sur une île de terre. Moi, je reviens, en fait, à, voilà, une île dans les terres. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose, c'est vrai que dans notre démarche, là, Paul et moi, en tout cas, qui se rapproche, en fait, de la démarche insulaire, parce que c'est vrai que, effectivement, mais on a vraiment des sortes d'aimantations, comme ça, vers des lieux qui sont une île dans les terres, une île dans la mer, des îles en fait, une sorte d'archipel comme ça. Voilà. On pourrait appeler l'archipel d'une archipel de véritable, je dirais, concentration poétique. Ouais. Voilà, on se concentre sur quelque chose, un lieu qui est qui a cette force, la force insulaire en fait d'un lieu, nous amène à cette énergie qui est l'énergie de l'écriture.
On va revenir sur cette question de territoire ou de lieu, là, parce que je crois que c'est extrêmement intéressant. On s'arrête une minute en attendant. Accord 2022, Michel Bonnet avec Paul Sanda et Bruno Geneste. Nous parlions de... Bruno nous parlait un peu de l'imprégnation qu'on peut recevoir quand on est dans un territoire. Et je trouve ça extrêmement intéressant de l'évoquer en ce moment à Cordes, parce que justement, Raymond VII, quand il a voulu construire Cordes, il l'a construit par rapport à un territoire. C'est le pays cordé, c'est l'ensemble, c'est pas que une muraille autour d'un piton. Et ça, je crois que c'est extrêmement intéressant de le retrouver maintenant.
Je crois que, effectivement, oui, c'est, je pense que le lieu est fondamental. Oui.
Ah, oui. Dans le livre, on a fait un chapitre qui s'appelle d'autres approches de Cordes et de ses environs. Et on voit tout un tas de poètes, de gens qui ont sillonné la région dans tous les sens et qui en ont une vision différente les uns des autres. Si on pense à, comment il s'appelle, ce qui est intéressant aussi chronologiquement sur un siècle, parce qu'on commence avec les glorieux anciens comme Prosper Mérimée, de voir que chacun a une approche d'abord de la muraille, pour ce qui est de Prosper Mérimée ou de Laurence d'Arabie, ou d'Hector Malot qui raconte son entrée à Cordes par la porte de la Jeanne et qui lui fait peur totalement, comme tu dis, cité noire, dangereuse. Oui. C'est décrit, mais c'est incroyable. Et donc, même la description de Cordes en ruine, en train de partir en morceaux par Laurence d'Arabie en 1904, ça a quelque chose d'extrêmement pathétique et touchant. Hein.
Oui.
Et puis, peu à peu, on voit cette cité qui renaît, qui renaît autour de ses artistes. On voit l'arrivée de tous les céréalistes après-guerre. Donc, André Breton qui amène tout le monde ici, dans la cour du Vieux-Cordes, pour manger, pour voir les œuvres d'Henri Salingarde, et qui sont encore, d'ailleurs, j'invite les Cordais qui connaissent pas à aller dans la cour de l'hostellerie du Vieux-Cordes. Il y a encore quelques œuvres d'Henri Salingarde. Et Henri Salingarde qui est mort en 47. Mais Breton qui arrive en 52 ici à Cordes et amène tous ses amis au resto là, qui était déjà un restaurant donc à l'époque. Et dans cette cour, on a des photos là dans le livre que j'ai retrouvé, où on voit André Breton avec Georges Goldfein, des peintres comme Toyen, Max Ernst, etc. Et tous ces gens viennent à Cordes dans les années 50. Et après les années 60, c'est Francis Meunier, la Barbacane, les nuits de la Barbacane, tous ces écrivains qui viennent aussi, peintres. J'ai raconté ça un peu dans un autre livre il n'y a pas très longtemps, hein, sur les peintres cette fois, de truc. Et puis, nous, on a essayé un peu, nous, écrivains, poètes, de reprendre ce lieu poétiquement depuis à peu près 2005, on va dire, où de nouveau on a créé des soirées de la Barbacane, des soirées de la Porte du Vainqueur, et puis après carrément un festival international de poésie actuelle qui a eu lieu neuf fois en 14 ans, je crois, parce que de temps en temps on faisait des repos, et puis bon, faut dire que le Covid a mis à mal cette belle histoire.
Il y a une chose que je trouve extrêmement intéressante, moi, quand on regarde un peu l'histoire de Cordes, on sent pas un développement, je dirais, logique, fabriqué, etc. Quoi. C'est une renaissance de chaque fois. Hein. Il y a une source qui sort là, l'eau, d'où elle vient, on n'en sait trop rien, tant qu'elle jaillit. Et puis elle est un peu plus loin, et on le voit ça avec les artistes, avec les écrivains, quoi. Je trouve ça extrêmement intéressant et sympathique par rapport à l'avenir, parce que quelquefois on se demande qu'est-ce qu'on va devenir.
C'est ça. Mais c'est ça. On a toujours l'impression que ça s'éteint, le feu s'éteint, et puis ça reprend. Ouais, ça reprend toujours. En fait, c'est ça. Alors, bon, les gens ont été imprégnés, ils sont partis avec... Oh, quand on voit, puisqu'on parle d'Albert Camus, par exemple, donc, il est venu plusieurs fois et puis il est reparti. Mais finalement, il en reste une trace. Parce qu'à chaque fois, on retrouve ces mots, on retrouve toute cette espèce de culture. Alors, à la fois, on a l'impression que c'est loin, que ça a disparu, etc. Mais non, ça ressurgit parce que les poètes de maintenant, ils arrivent, ils s'en ressaisissent. Donc, on parlait de Marc-Alexandre Bembé, qui est quand même peut-être un des plus jeunes romanciers à être venu ici à Cordes et avoir écrit quelque chose sur Cordes ces derniers temps, parce qu'il est né en 76. C'est pas... Voilà, donc un très beau livre chez Kalman Levy, dont on parlera donc à notre conférence. Mais lui, il est venu ici, fait un extraordinaire chapitre sur Cordes et dans les derniers temps là, donc dans les dernières années, et ça c'est, alors après j'ai énuméré tous les poètes qui sont venus ici, c'est une liste totalement impressionnante, donc on verra dans le livre, je vais pas citer tout le monde, c'est, mais bon, il y a des gens totalement improbables qui sont venus ici, qui ont une espèce de, qui ont apporté quelque chose à Cordes. Alors, je pense à un qui est particulièrement intéressant, qui s'appelle Jimmy Gladiator, donc un poète qui est mort maintenant, hein, qui a laissé quand même 3 livres ici à la maison Raphaël de Surtis, qui était un type totalement engagé à la CNT, anarchiste, etc., qui a débarqué, qui avait fait une conférence sur le centenaire de la naissance d'André Breton, qui a fait des choses assez étonnantes et qui était un grand militant, et qu'il est arrivé comme un hippie en portant les choses. Mais ça c'est absolument génial. Et ça, comme cette cité attire des écrivains connus, mais des gens, parce que bien avant, et je veux parler de Marie-Christine Brière, qui est morte en 2017, qui était vraiment une cordaise, Jan Ramel Kals, etc. Ouais. Tous ces auteurs qu'à travers les siècles, qui eux étaient natifs de Cordes, ou qui s'y sont installés, ou qui ont vécu longtemps, ou qui ont écrit. Et on parle pas de Maurice de Guérin, donc à Andillac.
Mais il y a une chose aussi que moi, enfin, à laquelle je suis assez sensible, c'est à me dire qu'ils ont, tous ces gens-là, hein, qu'ils ont reçu quelque chose de Cordes et ils sont partis avec. Ils ont apporté quelque chose. Chacun apporte quelque chose à Cordes. C'est la richesse de Cordes. Mais de Cordes aussi, ils prennent, ils reçoivent quelque chose. Et ils le disséminent. Moi, je vois Cordes un peu comme une ruche avec des abeilles qui viennent d'un peu partout, tu vois. Et puis, on pollinise, quoi.
Et je reprends ce que disait Bruno tout à l'heure sur les îles. Il y a un côté assez insulaire, île dans la terre. Oui. On retrouve ça, on pourrait dire Mont-Saint-Michel sur la terre. Hein. C'est au Mont-Saint-Michel, il y a cet état d'esprit aussi. C'est-à-dire tous les lieux finalement qui sont soit dans la mer, soit semi dans la mer, soit... Mais en fait, on est quand même sur un pic au bout du compte. Donc sur quelque chose d'élevé qui du coup se trouve un peu isolé de la turpitude du monde.
Moi, je pensais quand il parlait d'archipel tout à l'heure, moi ça me faisait penser à Anne Brenon, une spécialiste des Qatars, etc., qui a justement intitulé un de ses livres Les archipels Qatars.
C'est ça.
C'était vraiment
une cristallisation en fait des archipels. Tout à fait. Une véritable poétique en fait qui, à mon avis, est totalement invisible et qu'on ne perçoit pas comme ça en premier abord, mais qui existe.
Par rapport à ça, une chose qui m'énerve assez souvent, c'est de voir que beaucoup d'historiens, beaucoup de gens, quoi, ou l'Église en général, ils veulent bloquer l'ensemble des Qatars sous une seule forme, alors que justement c'est une dissémination des archipels d'encore, mais dans chaque ville,
en plus avec des conceptions très différentes de la dualité, du dualisme,
tout à fait,
certains carrément non-duels.
C'est le jaillissement de la vie, quoi.
Bien sûr. Et tu avais raison de le souligner, d'ailleurs, Michel, cet aspect géographique, les lieux fondateurs, en fait, en général, sont comme ça. Ils portent en eux, le jaillissement des sensations, en fait. Et je trouve que... moi, je pense que, effectivement, je suis d'accord avec vous deux. Hein, on est vraiment dans une cristallisation, en fait, quelque part, de cette insularité qui n'est pas forcément une insularité ici, mais pour moi, c'est une île dans les terres, clairement.
Complètement. Alors, je ne vais pas déflorer tout non plus, mais samedi, donc, il y aura des vitrines et il y aura des objets qui vont être assez magnifiques. C'est-à-dire qu'on va en profiter pour mettre des coffrets originaux, je le dis, des coffrets originaux, donc pour que tout le monde puisse venir voir à la médiathèque en même temps différents objets, et en particulier des coffrets, différents coffrets. Donc je vais montrer un livre original qui avait été fait par Michel Butor, et en tant que écrivain, et Pierre de Marne, un peintre membre du groupe surréaliste, et qui avait été donné à, et il y a une très longue dédicace de ces deux hommes à Francis Meunier, donc là, pour la Barbacane, pour l'époque de la Barbacane, oui. On va dire. Donc ça il va y avoir ce magnifique coffret, oui. Qui est très rare. Il va y avoir aussi une œuvre d'Aline Gagnère. Un travail avec Jean Van Langenhoven, qui est un écrivain qui est aussi venu ici à Cordes plusieurs fois d'ailleurs, qui était un spécialiste d'Aline Gagnère et qui a participé à plusieurs expositions qu'il y a eu ici au Musée d'Art Moderne, et qui a participé aussi à la préface et au travail sur les catalogues que la mairie de Cordes et le Musée d'Art Moderne avaient produit à l'époque. Et donc je l'ai dit, Gagnère, donc il y aura un objet là encore original. Et il y a un coffret de André Jolivet et Paul Sanda, là un grand coffret avec des photos de Cordes retravaillées par André Jolivet, un grand coffret, etc. Si je peux avoir le livre Ferrat je vais essayer de le faire venir juste pour la soirée. S'il y a bien un employé municipal qui veut bien me l'apporter, et puis repartir avec après, puisque oui. il est à la mairie.
Hein. Normalement, il n'y a pas de problème. Enfin, à mon avis, il ne devrait pas y avoir de problème.
Non, je l'ai demandé.
C'est une affaire de sécurité.
Voilà, c'est une affaire de sécurité, mais comme il reste que pour temps de la conférence, voilà. Parce que ça serait aussi très bien de montrer finalement un des premiers livres jamais écrits à Cordes, oui. un livre écrit, commencé au Moyen-Âge, oui. Ferait le lien avec tout ce qu'on est en train de raconter là. Je vais mettre aussi d'autres choses dans les vitrines, des originaux diffères, mais comme ça les gens pourront voir ces objets.
Question de vitrine, de choses à montrer comme ça, peut-être que tu pourrais, ça serait possible de trouver le sort des apôtres, une copie du sort des apôtres.
Alors,
par exemple,
je pense que ça je vais pas le mettre à la médiathèque, oui. Je vais inviter les gens à aller au musée Charles Portal,
c'est ça,
et parce que là-bas il y a une copie,
voilà.
et ça j'en reparlerai évidemment, mais je me suis entendu avec Jean-Louis Ferrand pour refaire cette conférence, parce que je sais qu'il y a plein de cordais qui m'ont dit il y aura plein de monde à la médiathèque, ça va être plein, oui. Mais je sais qu'il y a des cordais qui auraient voulu venir, qui ne peuvent pas parce que c'est l'Ascension, et qui seront ailleurs. Et alors, je me suis entendu avec les gens du musée Charles Portal pour pouvoir refaire cette conférence à l'automne, ou nettement à la fin de l'été, oui. On va dire, à l'automne, au musée Charles Portal, et cette fois avec l'occasion de voir le sort des apôtres, évidemment.
Voilà, enfin, la copie de la charte de...
Voilà, et de parler de ces choses. Absolument.
Ça veut dire que les gens, tous ceux qui veulent venir, devraient prendre soin d'arriver un peu avant, non?
C'est ça, ou de rester un peu après, parce qu'on va boire un coup, on aura le temps d'aller voir et de parler.
Parce qu'on peut arriver à la médiathèque à partir de quelle heure?
Ah, mais elle est ouverte au public,
oui.
Donc à partir de 15h, elle est ouverte,
c'est
pour ceux qui viennent.
Donc
et puis, bon, voilà, mais
oui.
Elle ferme normalement au public à 17h, mais là, on va pas fermer,
oui.
Et puis parce qu'on va laisser ouvert pour la conférence qui va enchaîner après.
Enchaîner, oui.
Voilà.
Avant une dernière séquence, on s'arrête quelques secondes.
Well, I don't go to church on Sunday. Don't get on my knees to pray. Don't memorize the books or the Bible. I got my own special way. I know Jesus, he loved me. Maybe just a little bit more. If I
I fall down on my knees every Sunday at the Reveille's candy store. Well, it's got to be chocolate Jesus, made me feel so good inside. Got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no apple cider, I don't want no almond twirl. Ain't nothing better, a suitable for this girl. Well, daddy, it's better than a cup of gold. It's the only shaggy Jesus could satisfy my soul. Whiskey in the shade, best to wrap your savor up in cellophane. It blows like the big money, but that's okay. Oh, I'm over asking for a nice buffet. Well, you got to be chocolate Jesus, good enough for me. Got to be chocolate Jesus, Jesus.
Corde 2022, Michel Bonnet avec Paul Sanda et Bruno Geneste. Nous terminons cette mise en bouche.
Voilà.
Cette apéritif. Mise en bouche pour la réunion de samedi prochain, 28 mai, n'oubliez pas, à 5h15 à la médiathèque du Pays Cordé. 5h, vous pouvez venir une heure avant si vous voulez.
Ah oui,
pas de souci. Il y a des choses à voir aussi.
Bon, voilà.
Alors, on finit avec un petit panorama pour rassembler un peu le Pays Cordé, un peu tout ça, quoi.
Oui, alors de s'apercevoir que effectivement déjà les surréalistes avaient fait des liens entre par exemple Penn, donc un foyer important de la présence surréaliste et poétique à Penn et à Corde. Et donc des gens comme Aline Gagnère qui venait périodiquement à Penn du Tarn en vacances et qui dont on retrouve aujourd'hui les œuvres au musée d'art moderne de Corde, parce que il y avait un pont entre la vague surréaliste qui s'est installée autour de Noël Arnaud à Penn du Tarn et la vague surréaliste de Corde menée par Francis Meunier et tout ça sous la houlette de Breton qui n'était jamais très loin à Saint-Cyr-la-Popie. Donc il y avait déjà cette espèce d'agrégat, je dirais, qui fait que la région a une pensée globale de la surréalité et du littéraire et de la poésie. Parce qu'on va retrouver tous ces poètes qui sont deux, Bruno en a parlé tout à l'heure, Jean Malrieux, Georges Hermand, tous ces gens qui venaient à Penn. Alors Penn, pour nous, c'est vraiment un creuset ou un foyer à l'instar de Corde, littéraire profond. Et puis après, autour, il y a des lieux qui sont particuliers. Donc, je l'ai dit, il y a le château du Caïla à Andillac, où il y avait Maurice de Guérin et Eugénie de Guérin, qui sont quand même deux... Enfin, Maurice de Guérin, oui. Eugénie de Guérin aussi écrit, mais vraiment, Maurice de Guérin, c'est un très grand poète, dont on va trouver les traces aux éditions Gallimard, et a vraiment des poèmes extraordinaires. Et là, c'est à 15 kilomètres d'ici. Après, il y a tous ces gens dont je parlais, de Saint-Martin-la-Guépie, où il y a notre ami l'ancien gouverneur de Hong Kong qui est là, qui a écrit des livres aussi. Alors là, c'est intéressant de voir qu'autour, finalement, de ce qu'aujourd'hui on peut appeler la communauté de communes du pays cordais, du Causse et du Cordais, on va trouver dans la campagne des lieux de force, d'écriture, avec des écrivains présents. Et je pense aussi à Millar, c'est Bruno qui a beaucoup étudié Charles Géniaud, alors je vais lui laisser la parole.
Charles Géniaud, oui, c'est vrai que c'est, là aussi, c'est une des figures qui m'a beaucoup intéressé. Enfin, en tout cas, son univers... Il est breton, hein, c'est vrai qu'effectivement, ce qui nous rapproche, c'est qu'il est breton. Hein, c'est vrai que il est né du côté de Rennes, et donc c'est quand même un peu la patrie de... Enfin, on n'est pas très loin de Saint-Malo, hein, on n'est pas très loin de la patrie de Chateaubriand non plus. Et ce qui m'a intéressé aussi chez Géniaud, c'est qu'il avait une admiration profonde pour la ville marquée. Et la ville marquée, ben, il est né pas très loin là où je réside, en fait, à Moëlan-sur-Mer. C'est du côté de Quimperlé, en fait, ah oui, que ce grand personnage, en fait, ce quêteur de mémoire, on l'appelait comme ça, hein, qui était un collecteur. Enfin, il allait dans les campagnes collecter la mémoire des anciens, et il en a fait des chants, les chants magnifiques d'ailleurs, qui ont été qui ont irrigué, on peut dire, une grande partie des chants traditionnels, hein, le Barzaz Braise, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, le Barzaz Braise. C'est vraiment pour moi d'abord une... Je pense que ça l'était aussi pour André Breton, parce qu'on là on peut faire aussi le lien avec les surréalistes, puisque Breton il avait lu le Barzaz Braise, et c'est vrai qu'effectivement là on retrouve dans les séries, enfin vraiment tous ces chants qui ont été collectés. On l'a même accusé d'avoir un peu romancé. Bon, il a réécrit les chants, mais un peu comme Macpherson, il en a fait vraiment quelque chose de vraiment puissant.
Et Géniaud, il s'est complètement inspiré de ça.
Voilà.
Et puis un jour, il est tombé amoureux d'ici. De Millars avec sa femme, et ils ont acheté le château, et il a occupé le château pendant un bout de temps, hein, jusqu'à sa mort. Et il est tombé complètement en pamoison du pays cordais. Mais Albi, il aimait beaucoup Albi aussi, évidemment. Et il a écrit différents romans. Alors, peut-être tu connais un peu mieux que là.
Oui. Enfin, il a écrit différents romans. Enfin, des romans qui étaient parfois un peu... Bon, certains disaient qu'ils étaient un peu abscons. Mais bon, non. Des romans vraiment vraiment de grande qualité. Je pense qu'il avait vraiment une écriture très élaborée. Quand on lit ses romans, en tout cas, on trouve une véritable profondeur, etc. Et comme Paul vient de le dire, c'est vrai qu'il est tombé amoureux. Mais je crois que les Bretons sont comme ça. C'est vrai, ou c'est des gens qui ont une espèce de passion comme ça pour les lieux, parce qu'ils habitent un lieu quand même qui n'est pas n'importe la Bretagne. C'est quand même un paysage.
C'est une
force incroyable. Et donc, quand ils sont venus ici, ils ont découvert en fait quelque chose. Et là, on revient encore à cette insularité, à quelque chose qui leur rappelait quelque part la Bretagne, mais sans la mer. Voilà.
Peut-être qu'il trouve aussi ici le désert. L'autre matin, je me promenais ici du côté du moulin de Julien, dans la campagne, en allant vers Souël, dans les petits chemins. Et tout d'un coup, on arrive dans une mer de champs, etc., de blé, etc. Oui. Et il n'y a personne. Et cette immensité. On a la chance dans notre région d'être encore dans un lieu si peu peuplé, finalement, au point qu'on soit totalement assailli par la campagne. Cette campagne devant moi, à perte de vue, qui ressemblait à l'océan. Et je pense que Géniaud qui arrive et qui en plus s'installe dans un château très très beau, magnifique, à Millars, et puis adorer arpenter la campagne. On retrouve aussi dans le livre là Antoine Sibirski qui a écrit beaucoup de petits ouvrages, plusieurs petits ouvrages sur Corde, et qui dit la même chose, que rien ne vaut la promenade dans la campagne le matin, quand on s'en va dans cette campagne qui nous appartient à nous tout seul. Vous savez, quand vous allez vous promener tôt le matin ici dans la campagne, il n'y a personne. Et quand il revient, il voit Corde dans le lointain. Et là, au retour sur Corde, quelque chose d'absolument somptueux.
C'est un peu la thématique du roman, son roman d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il a écrit un livre qui m'a complètement habité pendant un certain temps, c'est Les Faucons, un livre superbe. Donc, là, on trouve vraiment le mariage de cette terre avec la lumière bretonne parfois qui apparaît. Enfin,
il fait un mariage,
tous ces éclats comme ça.
Il fait un mariage.
Cette espèce de fusion, l'harmonie de la terre et de la lumière, quelque chose comme ça.
Un peu ce qu'a fait Ramel Kals en revenant de la capitale et en finalement en s'installant et en disant je suis ici, voilà, des livres cordais après avoir fait des livres parisiens.
Mais je crois, c'est intéressant, il faudra approfondir ça à mon avis, ce lien entre donc l'île et l'océan autour, l'océan qu'on découvre en ce moment comme une source de vie puissante, avec cachée à l'intérieur toute une force énorme. Mais on a la même chose ici, avec, comme tu dis, avec la campagne, parce que dès qu'on sort un peu et qu'on a un petit brin de curiosité sur à creuser, on trouve des tas et des tas de choses
énormes.
Bon, mais je crois que on n'a plus qu'à vous conseiller fortement de ne pas manquer cette soirée de samedi prochain, le 28 mai à 17h15 à la médiathèque, sur un siècle d'écrivains à Cordes sur Ciel et aux environs. Et nous remercie au nom de tous les auditeurs, Paul Sanda et Bruno Geneste d'être venus jusqu'au micro de CFM. C'était Cordes 2022, Michel Baudet.
Merci.
Merci.
A worried man with a worried mind. No one in front of me and nothing behind. There's a woman on my lap. She's drinking champagne. Got white skin, got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in a noose. Any minute now I'm expecting all hell to break loose. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town, I should be in Hollywood. Just for a second there I thought I saw something move. Take dancing lessons, do the jitterbug rag. Ain't no shortcuts, gonna dress in drag. Only a fool in here would think he's got anything to prove. A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Walking 40 miles of bad road. If the Bible is right, the world will explode. Been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hot to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing hand. I feel like falling in love with the first woman I meet. Put her in a wheelbarrow and wheel her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Easy, I just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity.
gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman who don't even appeal to me. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, all the things have changed. Yeah, I used to care, but things have changed.